Vous écoutez Radio J.
Radio J. Radio J.
Le 6-9.
Nicolas Raphaël.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio J, il est 6h, nous sommes le dimanche 5 mai 2024, ravi de vous accueillir pour cette matinale, ce morning jusqu'à 8h45 en compagnie. Mais oui, c'est elle, je ne l'avais pas reconnue, Eva Soto, bonjour Eva.
Bonjour Nicolas.
Vous avez un tout petit son de micro ce matin.
Oui, j'ai tout petit son de micro.
Très très bien, bonjour Benjamin Arnaud qui nous accompagne jusqu'à 8h45, comment ça va bien?
Eh ben ça va bien.
Bon bah écoutez, on est ravis, on va décortiquer l'actualité tout au long de cette matinale, bien sûr, avec en compagnie de nos chroniqueurs experts, on va tout vous raconter, tout vous dire de d'Israël, de la vie politique en France, de la vie politique dans les universités américaines. On va faire donc à 6h07 un petit point, puisque c'est le 5 mai 1821 que l'empereur Napoléon meurt à Sainte-Hélène. On va vous parler de l'histoire de la relation des juifs dans la société française sous l'ère napoléonienne. Ce sera dans quelques minutes. On parlera de la libération du camp de Mauthausen, aussi un 5 mai 1945. C'était le dernier camp de concentration à avoir été libéré en ce début du mois de mai 1945. Et puis on a eu la tristesse d'apprendre le 30 avril dernier, Paul Auster, qu'on aimait bien, qui nous a quittés. Nous sommes tous victimes de quelque chose, ne fût-ce que d'être en vie. Une phrase de Paul Auster, voilà. Eh bien écoutez, le journal de 6h pour la peine. Et bien c'est parti. À la une de l'actualité, le 211e jour de guerre contre le Hamas et les négociations pour la libération des otages et un cessez-le-feu, Eva, très difficile.
Il n'y aura pas de délégation israélienne envoyée au Caire pour des discussions tant que le Hamas n'aura pas répondu aux propositions sur un éventuel accord. Une décision que Benjamin Netanyahou aurait prise hier sans consulter ni Benny Gantz ni Gadi Eisenkot, membre du cabinet de guerre. La CAN affirme que le Premier ministre n'acceptera aucune offre qui exigerait la fin des opérations militaires à Gaza, ce que souhaitent les États-Unis qui, eux, restent opposés à une opération à Rafah. De son côté, le ministre de droite nationaliste Itamar Ben-Gvir a salué la décision de Benjamin Netanyahou de ne pas envoyer de délégation au Caire.
Et c'est dans ce contexte que des familles d'otages ont accusé le Premier ministre de chercher à saboter un accord avec le Hamas.
Comme chaque semaine, elles ont participé à de nouvelles manifestations hier soir en Israël contre le gouvernement Netanyahou et pour un accord en faveur de la libération des otages. Manifestation à Tel Aviv, rue Kaplan, le slogan des protestataires: quand la paix s'éloigne, le Hamas ne fait que se renforcer. Les manifestants hier soir à Tel Aviv, il y a eu des rassemblements similaires ailleurs en Israël, notamment à Césarée, où se trouve la résidence particulière du couple Netanyahou, mais aussi encore à Kfar Saba, Jérusalem ou Herzliya.
Et dans la bande de Gaza, un haut responsable du djihad islamique a été tué hier dans une frappe aérienne de Tzal.
C'est l'armée et le Shin Bet qui l'ont annoncé dans un communiqué. Iman Zareb a commandité et dirigé plusieurs attentats et tentatives d'infiltration en Israël ces dernières années. Il a dirigé les forces d'élite du djihad islamique lors des massacres antisémites commis par le Hamas le 7 octobre, notamment en s'attaquant à Soufa et au poste de Tzal voisin. Depuis sa cachette ces derniers jours, Iman Zareb préparait des hommes à l'opération annoncée de Tsahal contre le Hamas à Rafah.
Sur le front nord, des avions de combat israéliens ont frappé hier soir un bâtiment utilisé par le Hezbollah au Liban.
Un raid mené à Tahrir Arfat, Tsahal a aussi bombardé les zones proches de Nakoura, Marwain, Ahanin et Matmoura avec de l'artillerie pour éliminer les menaces. Un peu plus tôt, un missile anti-char a été tiré contre la localité israélienne de Shtoula et deux autres roquettes ont été tirées sur le mont Hermon.
Tension également en Judée-Samarie où un officier de l'unité Yamam a été blessé hier matin.
Ça s'est passé près de Toul Karem lors d'une opération au cours de laquelle 5 terroristes ont été tués. Ils étaient retranchés dans un bâtiment et les combats très intenses ont duré 12 heures. Les troupes ont saisi plusieurs armes au cours de ce raid.
Vous pouvez...
En France, à un mois des élections européennes, nouvelle passe d'armes entre le Parti Socialiste et les LFistes.
En cause, un tweet de Manon Aubry, tête de liste LFI aux européennes, contre Raphaël Glucksmann, contre ses adversaires, parmi eux donc Raphaël Glucksmann, cité comme touchant des revenus annexes à ses rétributions au Parlement européen. Il s'agissait en fait des droits d'auteur pour ses livres. Le secrétaire national du PS a dénoncé les fake news propagées par Manon Aubry, selon ses termes, une méthode de ripoux à la Donald Trump. On écoute Olivier Faure.
Vous pouvez contester à Jérôme Gage ce qu'il a à vous dire, mais vous ne pourrez jamais le traiter de délateur. Vous ne pourrez jamais le jeter en proie et au lynchage sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas faire comme vous l'avez laissé faire. Jeter en pâture Emma Rafovitch parce qu'elle est juive et parce qu'elle est la nièce de son oncle. Comment est-ce possible d'accepter aujourd'hui de traiter Raphaël Glucksmann comme s'il était celui qui avait soutenu Netanyahou?
Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, hier s'adressant aux LFistes.
Éric Zemmour accueilli par des militants communistes et de la CGT en Corse.
Le président du parti d'extrême droite a été pris à partie par une quinzaine de personnes au cri de fascistifora, fasciste dehors. Et en Corse, on est des résistants, pas des collabos. Je vous emmerde, leur a répondu Éric Zemmour, qui a aussi frappé dans le dos l'une de ses militantes. Reconquête va porter plainte. D'autres personnes sur le marché d'Ajaccio hier ont pris la défense d'Éric Zemmour.
Bon, et ben on va rester en Corse avec Napoléon dans quelques instants. Voilà. Il y a de l'ambiance.
Ouais.
La météo. C'est nuageux aujourd'hui sur Paris et la région parisienne, mais température tout à fait de saison avec un 18 degrés au maximum de la journée, mais ce sera un temps nuageux, voilà, tout au long de cette journée parisienne. Ce sera ensoleillé à Tel Aviv avec 23 degrés au maximum et au-dessus du Cotel, 21 degrés ensoleillé également.
Radio J, le 6-9,
Nicolas Raffal.
Le 5 mai 1821, l'empereur Napoléon meurt à Sainte-Hélène. Un peu d'histoire ce matin, on se penche sur la relation de Napoléon au peuple juif. On parle souvent d'assimilation après l'émancipation de la Révolution. Il est vrai que le régime napoléonien est à l'origine de ce que nous trouvons encore aujourd'hui dans la société française et juive. Il y a cette très belle estampe gravée au musée d'art et d'histoire du judaïsme, le Maj, datant de 1806, dans laquelle on peut voir, debout au centre, paré de son manteau et de sa couronne impériale, l'empereur qui tient dans sa main droite le rouleau des lois données à Moïse pour établir le culte des Israélites le 30 mai 1806. Sa main gauche se tend vers une femme assise à ses pieds, la nation juive qui lève la tête vers lui. Dans sa main gauche, elle tient les tables de la loi gravées en hébreu. Trois hommes sont tournés vers eux, dont deux font une génuflexion devant elle. Le troisième est en tenue rabbinique et est coiffé du chapeau bicorne du président du Sanhédrin.
La politique de Napoléon à l'égard des Juifs a été diversement appréciée par les historiens. L'empereur raisonnant avant tout sous l'angle pour lui essentiel de l'ordre public. Le désir impérial est en ce début de 19e siècle de mettre fin aux difficultés qui opposent les communautés et le reste de la société dans le sens des mesures prises sous Louis XVI et ses successeurs révolutionnaires. L'empereur ne tolère aucune entorse à ses principes d'organisation de la société autour de l'État. Les Juifs, qui ne s'intéressent guère à Napoléon, ont de lui une image plutôt positive à l'époque, non sans raison. Dès 1797, lors de la campagne d'Italie, celui qui n'était encore que le général Bonaparte vient en aide aux Juifs quand il s'empare de la ville d'Ancône. Il les libère du ghetto dans lequel ils sont confinés. Il supprime le bonnet jaune et le brassard à l'étoile de David qu'ils étaient tous obligés de porter et il leur accorde la liberté de culte et la liberté de circulation. Il y a aussi l'appel lancé en 1799 lors de sa campagne d'Égypte, alors qu'il assiège Saint-Jean d'Acre, Bonaparte appelle les Juifs de l'Asie et de l'Afrique à se ranger sous ses drapeaux pour rétablir l'ancienne Jérusalem. De là en faire un précurseur du sionisme, il n'y a qu'un pas qui souvent a été franchi. À cela près que le futur empereur cherchait seulement à recruter des soldats et n'avait aucun projet concret d'État juif.
Alors oui, c'est vrai, contrairement à ce qu'ont pu laisser penser certains historiens de la question, l'empereur ne se levait pas chaque matin en se demandant comment il allait pouvoir faire du mal à la communauté juive, mais il y avait très certainement un anti-judaïsme inhérent à l'époque chez l'empereur. On peut trouver sous sa plume des épithètes défavorables ou méprisantes qui, assemblées bout à bout, fourniraient la matière d'un petit catéchisme antisémite. Par exemple, quand il écrit « C'est une nation à part dont la secte ne se mêle à aucune autre », où le mal fait par les juifs ne vient pas d'individus mais du tempérament même de ce peuple. Ce qui nous fait penser, bien sûr, immédiatement à De Gaulle, le peuple sûr de lui-même et dominateur. À l'inverse, il s'opposa aux doctrinaires catholiques qui souhaitaient réduire le judaïsme français en lui infligeant un statut fermé et contraignant. Il y eut cette réunion à Paris en 1806 d'une assemblée d'individus professant la religion juive. L'empereur leur adressa une série de questions, parfois naïves. Est-il licite aux juifs d'épouser plusieurs femmes, mais le plus souvent destiné à clarifier l'attitude des juifs eux-mêmes par rapport à leur pays. Les juifs nés en France et traités par la loi comme citoyens français, regardent-ils la France comme leur patrie? Ont-ils l'obligation de la défendre? Sont-ils obligés d'obéir aux lois et de suivre toutes les dispositions du code civil? Le tout déboucha en mars 1808 sur la création du consistoire central des Israélites de l'Empire qui intégrait le judaïsme parmi les autres cultes reconnus, de même que le code civil napoléonien avait garanti l'égalité juridique des juifs en tant que citoyens. En leur faisant ainsi une place dans la société, Napoléon permet aux juifs de s'assimiler à la communauté française. Ceux-ci en sont si satisfaits que chaque semaine, les fidèles de toutes les synagogues entonnent une prière en hébreu afin de louer l'empereur.
Son nom, Bonaparte, bonne partie, fut même hébraïsé en Elektov, tout comme en Allemagne, où, lorsqu'il devait adopter un nom de famille, nombre de juifs choisirent eux aussi cette traduction. Schoenthal, l'empereur Schoenthal, vous imaginez, plusieurs rabbins éminents de l'époque, comme Nachman de Breslav ou Menachem Mendel de Rimanov, firent part de leur admiration pour l'empereur, mais d'autres étaient nettement moins enthousiastes, toujours que en 1808, Napoléon imposa aux juifs plusieurs décrets discriminatoires, freinant l'entrée de juifs étrangers dans le pays, leur interdisant certains territoires ou de se faire remplacer comme soldats, ce qui était de coutume à l'époque. Par la suite, nombre d'historiens ont fait chorus en estimant que Napoléon méprisait les juifs et les instrumentalisait à ses propres fins. Ainsi, pour eux, la création du consistoire n'avait d'autre but que de les assimiler par la force.
À l'appui de ses thèses, il cite une lettre de 1809 de l'empereur à son frère Joseph dans laquelle il affirme que les juifs sont les plus misérables des personnes, des corbeaux et des sauterelles qui ravagent la France. Ou en 1817, alors qu'il se trouve à Sainte-Hélène, cette déclaration à un de ses compagnons d'exil, les juifs sont un peuple méchant, lâche et cruel. Alors Napoléon a-t-il été bon ou mauvais pour le judaïsme? La législation napoléonienne d'assimilation des juifs est un succès, il faut le reconnaître. Sauf à la juger à la lumière des deux siècles qui ont suivi, affaire Dreyfus, législation de Vichy et génocide compris. La méfiance de l'empereur à l'égard des juifs n'a aucun fondement religieux, c'est l'ordre public, vous l'avez dit Eva, qui l'intéresse. Plus que des mesures de police, il désire fonder une solution durable. En comparaison de la situation antérieure, ses choix constituent une étape d'un chemin long et difficile, certes, dans une France toujours tentée par l'antisémitisme.
Le décret du 11 décembre 1808 sur l'organisation des consistoires où l'autorité rabbinique est largement placée sous la tutelle des représentants laïcs des communautés, la création d'un consistoire israélite en 1808 est aujourd'hui encore un des deux piliers avec le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, créé en 1944, de l'organisation du judaïsme en France. Cette reconnaissance officielle et mutuelle contribuera à une paix religieuse qui persistera jusqu'au régime de Vichy. L'émancipation des juifs de France sera regardée par une partie de l'Europe comme une grande avancée. Heureux comme un juif en France deviendra une expression emblématique des communautés juives d'Europe. Le 5 mai 1821, il y a 203 ans, Napoléon meurt à Sainte-Hélène dans sa maison de Longwood.
Nicolas Raffal.
Radio G.
Il est 6h15, bienvenue à vous sur Radio G. Si vous nous rejoignez, dimanche 5 mai 2024, le rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, le 211e jour de guerre contre le Hamas. Les négociations pour la libération des otages et un cessez-le-feu très difficile. Il n'y aura pas de délégation israélienne envoyée au Caire pour des discussions tant que le Hamas n'aura pas répondu aux propositions sur un éventuel accord. Une décision que Benjamin Netanyahou aurait prise sans consulter ni Benny Gantz ni Gadi Eisenkot, membres du cabinet de guerre. C'est dans ce contexte que des familles d'otages ont accusé hier le Premier ministre israélien de chercher à saboter un accord avec le Hamas. Comme chaque semaine, elles ont participé à de nouvelles manifestations hier soir en Israël contre le gouvernement, à Tel Aviv, rue Kaplan, mais également à Césarée, où se trouve la résidence particulière du couple Netanyahou, à Kfar Saba, Jérusalem ou Herzliya. Dans la bande de Gaza, un haut responsable du djihad islamique tué hier dans une frappe aérienne de Tsahal, Iman Zareb, préparait les hommes à l'opération annoncée à Rafah. En France, à un mois des élections européennes, nouvelle passe d'armes entre le Parti socialiste et les LFistes. Et puis Éric Zemmour, accueilli par des jets d'œufs à son arrivée hier au marché d'Ajaccio par des militants de la CGT.
Merci Eva pour ce rappel des titres chansons sur Radio G. Mais il a presque le même nom que moi, tiens, celui-là. Yam Refaeli. Shera Kev Yimtsalo Averim. L'ai-je bien prononcé? C'est Yam Refaeli sur Radio G.
בסוף זה מסתדר, גם כשנראה שאתה רחוק מזה, רחוק מעצמך. שהכאב ימצא לו חברים לטייל איתם בלילה. אתה סיימת לוותר על האמת שכל יום היא בפנים, היא צועקת שכבר די לה. עוד מחכה שתתעורר. זה מסתדר תמיד, תזכור שזה גדול בחשיכה. תהיה טיפה סבלני, בסוף כל הלילות הייתה זריחה. זה בטח אמיתי וזה כואב, לא כל כך פשוט לאבד את הלב. בסוף זה מסתדר גם כשנראה שאתה רחוק מזה, רחוק מעצמך. שהכאב ימצא לו חברים לטייל איתם בלילה. אתה סיימת לוותר על האמת שכל יום היא בפנים, היא צועקת שכבר די לה. עוד מחכה שתתעורר.
Raphaëli, Cher Arkev, Yimtsa Loaverim sur Radio J, c'était Chérim.
Radio J, le 6-9.
Nicolas Raffal. Radio J.
Un petit peu d'histoire russe, histoire de la Russie et du RSS, c'est Vladimir Fedorovski. Il est 6h20 au micro d'Eva Soto qui nous raconte, eh bien, Sergueï Narychkine, l'ancien président de la Douma.
Et comme chaque semaine, chaque dimanche même sur Radio J, on retrouve toujours avec énormément de plaisir
Sergueï Narychkine. Narychkine, c'est pas un Napoléon en puissance, mais c'est quelqu'un qui est déterminant pour
alors,
aujourd'hui.
Alors, avant, je vous présente peut-être Vladimir Fedorovski, écrivain et ancien diplomate russo-ukrainien. Votre dernier livre, Napoléon face à la Russie, est paru aux éditions Balland. Donc,
Savez, je tiens à vous dire, Napoléon face à la Russie, c'est dans la filière d'un livre que tout le monde a lu. J'ai fait autrefois un livre qui s'appelle Le roman de Saint-Pétersbourg. 1 million d'exemplaires dans le monde, qui se lit vraiment, d'une manière assez extraordinaire. J'étais fier, c'était il y a presque 30 ans que j'ai fait ça. Et après, j'ai voulu revenir. C'est une période très triste. On en a marre d'écouter toutes ces nouvelles tristes. On en a marre des médias, sauf quand vous parlez dans vos émissions. Alors j'ai fait le livre qui nous emportait. C'est le voyage dans le temps et dans l'espace, Napoléon face à la Russie. Mais aujourd'hui,
on revient sur le parcours du responsable des services de surveillance extérieure de la Russie. Rien que ce titre, hein. Service de surveillance extérieure de la Russie, on se croirait...
Pourquoi revenir... surveillance ? Un service carrément de renseignement, d'espionnage.
On se croirait revenu à l'époque de la guerre froide, justement.
Ma chère Eva, en guerre froide, vous allez en rêver. Pendant la guerre froide, il y avait des règles, il y avait des lignes rouges, il y avait des accords, il y avait des gens extrêmement pointus qui analysaient.
Ce Sergueï Narychkine, qui est-il ?
Sergueï Narychkine, c'est un personnage assez énigmatique. Il faut dire que dans l'entourage, nous avons décrit ça, il y a l'entourage diplomatique, il y a l'entourage militaire qui joue un rôle, mais l'entourage le plus important de Poutine, c'est évidemment les siens. Poutine, c'est un ex-lieutenant-colonel du KGB et il s'appuie sur la filière du KGB dans son entourage. Il y a deux tendances là-bas, il y a, pour structurer les choses, il y a une tendance de contre-espionnage qui symbolise quand même ce verrouillage de la Russie. Aujourd'hui, ça s'appelle FSB. Le personnage de Proust, ça, c'est un conseiller de sécurité de Poutine, un certain Patrouchev, qui a une sorte de, disons, je dirais, de tendance sur le plan idéologique néo-stalinien. Il pense qu'il faut verrouiller ça, que le conflit avec l'Occident est inévitable, que les vrais alliés de la Russie, c'est l'Asie, c'est avec l'Europe, il n'y a rien à faire. De toute manière, il a perdu son âme. D'ailleurs, Patrouchev, il l'a dit, regardez, il cite d'ailleurs souvent la montée d'antisémitisme en Europe. Il a dit comme la preuve de la dégradation de l'Europe, la meilleure preuve, c'est Patrouchev, il dit. Il dit, et ça, c'est le personnage, vous voyez l'importance de ça. Et face à ça, il y a un personnage le plus subtil. Les Américains regardent Narychkine avec beaucoup d'attention. Ils lui ont donné même le nom de code. Personne ne connaît son nom de code. Vous savez, le nom de code que les Américains ont donné, et les Russes utilisent ça maintenant communément, en lore, comme le lore anglais. Vous comprenez pourquoi ? Parce que son Narychkine, c'est quelqu'un de très subtil, très grand littré. Il était formé. Au début, c'est une, vous savez, j'ai dit, Poutine, il prend les siens en disant qu'il prend le KGB. En réalité, il prend les siens parce qu'il prend souvent les gens de Leningrad, de Saint-Pétersbourg. Et évidemment, son entourage direct, vous voulez comprendre ça, c'est la filiation de Saint-Pétersbourg. Et évidemment, Narychkine, c'est une filiation de Saint-Pétersbourg. Il est né, il est imprégné par cette ville. Et sur ce plan-là, c'est très intéressant. Je dois vous dire que c'est un peu antithèse de FSB. Parce que FSB, il a dit, il n'y a rien à faire avec l'Europe. C'est terminé. L'Asie, c'est le continent de l'avenir. Nous devons construire une forteresse. Et Narychkine a dit, non, non, non. Il y a une filiation de Pierre Legrand. C'est pas encore terminé.
Mais ça, pourquoi ça se voit pas?
Ah, ça se voit beaucoup. Si
en
vous
quoi
regardez,
ça se voit?
Évidemment, parce que... Mais regardez, je vais vous dire, pourquoi les Russes qui ont perdu tous les contacts, le grand problème d'aujourd'hui, c'est la, toute la différence de la guerre froide. Pourquoi c'est pire que la guerre froide? Parce que vous savez, pendant la guerre froide, j'ai participé comme diplomate sous Gorbatchev, j'étais influent diplomate sous Gorbatchev, à beaucoup de contacts qui ont été gardés dans les pires, même sous Brejnev. Vous savez, si je vous raconte un jour la guerre de six jours, quand que j'ai géré directement à Brejnev, Kissinger, j'ai assisté, jeune interprète de la langue arabe, là-bas, vous serez étonné. Les contacts sont sauvegardés. Et le seul contact dans la réalité qui reste, c'est le contact de Narychkin avec quelqu'un que je vous recommande beaucoup, qui est très subtil, un grand connaisseur de Proche-Orient, qui d'ailleurs qui parle arabe, aussi, il s'appelle Burns. C'est le chef de la CIA.
Oui,
c'est... Et quand il... Vous savez, quand tout est... Ça m'a semblé perdu. Quand on va aller vers l'escalade vertigineuse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé une rencontre quasi secrète à Ankara. Ils ont discuté. Ils discutaient tête à tête. Et vous savez quelle langue ils ont parlé?
Arabe.
Non, ils ont parlé tout d'abord le russe, parce que Burns, il parle russe sans aucune espèce d'accent. Et ils ont parlé aussi évidemment l'anglais, parce que l'autre... Il faut dire
Sergueï,
que...
Pour en revenir à Sergueï Narychkin, j'aimerais revenir sur ses derniers propos dont on a parlé, parce que ça n'arrive pas souvent,
donc
on va se fixer là-dessus. En mars, il a parlé de l'envoi de 2000 soldats français en Ukraine. Quand il dit ça, on ne sait pas où il trouve ses preuves, on ne sait pas d'où ça sort. À quoi ça sert, ce type de propos?
Non, ça c'est, vous savez, ça reflète une préoccupation. Je vais vous dire.
Ça reflète une préoccupation, mais lui, il donne ça comme une information.
Non, je vais vous dire. L'information était liée avec la déclaration du président Macron. Il ne faut pas se leurrer. Le président Macron, il a dit qu'il y a...
C'est une réponse, mais cette réponse, elle ressemble à une information.
Cette réponse est une polémique autour de ça, mais je dois vous dire que les Russes, ils ont réagi face à ça d'une manière très directe. Ils ont constaté une chose, que le président...